RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Avec les grandes gueules, vous prenez la parole au 32-16 avec Sandrine Pégan, avocate, avec son confrère Charles Consigny, avec Jean-Loup Bonamy qui est...
Vous assurez que vos intérêts seront extrêmement bien défendus si vous aviez...
Gratos ?
Un avocat gratos, ça n'existe pas.
C'est la deuxième heure des GG des grandes gueules. De quoi va-t-on parler ? S'il est élu, Édouard Philippe dit « J'arrive à l'Élysée, mais j'aurai un petit temps de décompression ». Le temps de préparer mon équipe avant de partir directement, ensuite me mettre au travail en tant que président de la République. En fait, il veut prendre quelques jours de vacances.
Il est candidat aux vacances, quoi, en fait.
Donc, est-ce que c'est une boulette de la part d'Édouard Philippe ? Vous en parlerez avec nous à 11h-20. 10h20, l'enseignante menacée de décapitation dans le Lot-et-Garonne. Alors là, ça n'a pas traîné, on est au Foga, en Haute-Garonne. L'homme qui a menacé de mort l'enseignante, qui a menacé de la décapiter parce qu'elle avait reproché à son fils d'avoir une attitude de caïd. Comparution immédiate, mandat de dépôt, c'est-à-dire jugé tout de suite et ensuite au trou pour 6 mois ferme. Enfin, la justice a bien réagi, mais ça dit beaucoup de choses aussi sur ces parents d'élèves qui n'hésitent pas à menacer de décapitation les enseignants. Là encore, vous venez en discuter avec nous au 32-16. On va d'abord s'intéresser au financement des retraites, à une proposition du jeune Clément Beaune.
Et il est aujourd'hui, non seulement un luxe, mais presque chaque jour un combat, d'essayer de dépasser les réponses de court terme ou d'urgence.
Mais qui a voté pour travailler plus ?
Alors, dépasser les réponses de court terme ou d'urgence, ça c'est la novlangue du haut-commissaire au plan, mais qui fait quand même une proposition, c'est-à-dire de travailler 3 ou 4 ans de plus pour essayer de sauver le système des retraites.
Oui, face au vieillissement de la population, et si on veut continuer à financer ce système des retraites tel qu'il est en place, hein, notre modèle social, eh bien il va falloir travailler plus, c'est inévitable. Voilà ce que dit Clément Beaune, l'ancien ministre macroniste. Il dit 3 à 4 ans, par exemple, il dit ceux qui ont 24 ans aujourd'hui, bah, ils devront travailler jusqu'à 70 ans. Alors forcément, derrière, ça fait beaucoup réagir. On sait que c'est un sujet... D'ailleurs, en France, c'est assez étonnant, parce que c'est un sujet explosif. Alors qu'ailleurs, dans d'autres pays, ça se règle assez facilement. Mais dès qu'on parle de ça, c'est explosif en France. Est-ce que Clément Beaune a raison ? Il est courageux ? Ou est-ce qu'il fait fausse route ?
32-16 pour en parler avec les grandes gueules, Sandrine.
Moi, j'en ai un peu marre de tous ces hauts commissariats, ces hauts conseils, ces commissions. Ils sont bien gentils, mais finalement, bon, ben, ce qu'il nous dit, la palisse, elle aurait pas dit mieux. On le sait depuis déjà quelques temps que, de toute façon, la population vieillit, que on vit plus longtemps. Donc, proportionnellement, les actifs, il va falloir qu'ils mettent plus de main à la pâte pour payer et financer notre système de retraite et notre modèle social. Maintenant, moi, je vois juste un petit problème. C'est qu'ils veulent que les seniors travaillent davantage, puisque donc du coup, on va travailler plus tard. Moi, par exemple, dans mon entourage, j'ai ne serait-ce que 3 amis qui ont entre 50 et 55 ans. Bah oui, maintenant je suis un peu plus âgée, donc forcément j'ai des amis qui ont mon âge ou un peu plus et qui ont des vraies difficultés à trouver un emploi à partir de 52 ans. Il suffit que à un moment donné, ils perdent leur emploi pour X raison, licenciement économique ou autre. Mais après, derrière, ils sont invisibles pour les recruteurs. Et donc là, on veut qu'on travaille plus longtemps. Sauf qu'après, comment on fait pour trouver un emploi ? Moi, en tout cas,
La démographie va régler le problème parce qu'il y aura moins de jeunes sur le marché du travail puisqu'on fait moins d'enfants. Donc, forcément, ces seniors, on sera obligé de les employer. On ne pourra plus s'en débarrasser.
Tiens, ça tombe bien que tu en parles parce que je suis en train de lire le livre de Hollande, Unir, Nouvelle Gauche, etc. Et justement, il parle d'un contrat senior-junior. Oui, voilà, c'est ça. C'est ce qu'il avait déjà proposé en 2022. Et là, il veut remettre ça au goût du jour.
Charles.
Et je veux pas que Clément Beaune le prenne personnellement. Je le salue. Avec amitié, chaleur,
vous échangez régulièrement sur les réseaux sociaux.
Respect, tout ce que vous voulez, hein. Mais effectivement, je pense que demain, vous allez chez le coiffeur, vous prenez un taxi, vous déjeunez avec votre beau-frère, avec votre oncle. Tout le monde vous dit la même chose que le Haut Commissariat au Plan. Il n'y a pas besoin d'avoir une administration, un chauffeur, un cuisinier. Vraiment pas, hein. Je le dis. Non, mais c'est vrai, franchement,
Il enfonce une porte ouverte.
Si c'est pour nous dire ça, c'est une nouvelle preuve que cette institution ne sert à rien.
Ah oui.
Et moi, je martèle que le plan ne sert à rien. La preuve cet été avec la climatisation qui n'était installée nulle part. La preuve avec ces trains qui, une fois sur deux, voire deux fois sur trois, n'arrivaient pas à l'heure. La preuve, rien n'est anticipé en France depuis maintenant fort longtemps. Donc ça ne sert à rien, ce truc. Voilà, j'en profite pour redemander la suppression du Haut Commissariat et le licenciement de tous les gens qui y travaillent. Mais s'agissant, mais sur le fond, je suis d'accord avec lui par ailleurs, et tant mieux s'il le dit aussi, lui qui en plus appartient au centrisme le plus mollasson qui soit. J'ai vu sa tribune co-signée avec un macroniste historique, j'avais failli dire historique.
Monsieur Grandjean.
Philippe Grandjean. Il était socialiste en plus avant.
Hein. Oulala, vite, je ne sais plus quelle était leur demande, mais c'était surtout coalisons-nous vite pour que surtout rien ne change. Quoi. C'était ça l'idée. Donc si même ces gens-là disent qu'il faut travailler plus longtemps, c'est une bonne chose. Je pense effectivement qu'il y a un principe de réalité, il y a une pyramide des âges, il y a un problème de nombre d'enfants que font les Français. Il y a beaucoup de problèmes. Énormément de retraités aujourd'hui ne s'en rendent pas compte, mais ils ne sont pas du tout contributeurs nets au système. C'est-à-dire que quand ils disent « on a cotisé toute notre vie, on a le droit », malheureusement, c'est faux sur le plan mathématique. C'est-à-dire que si on cumulait tout ce qu'ils ont cotisé, ils auraient peut-être 5 ans de retraite à tout casser, mais certainement pas toute leur vie à la retraite, surtout s'ils la prennent avant 65 ans. Et donc, moi, je suis pour, effectivement, la retraite à 70 ans, hein, avec quelques
donc, finalement,
dérogations.
Clément Beaune et vous êtes...
avec quelques dérogations.
Tu mets un âge pivot.
Moi, je trouve que 70 ans, c'est bien, et on peut faire, sinon, le nombre d'années de cotisation. On n'a qu'à mettre 50 ans de cotisation, dans ce cas-là. Hein, pourquoi faire 40 hein, avec des dérogations pour ceux qui bossent physiquement, pour ceux qui travaillent la nuit, pour ceux avec des systèmes pour les mères qui ont élevé des enfants. Évidemment, je ne parle pas d'un système bête et méchant. Mais en revanche... Je le redis, moi, quand je vois, et j'en connais plein, un certain nombre de retraités qui sont en pleine forme et qui, en plus, du coup, en général, ça leur rend pas forcément service d'être à la retraite, eh bien, je pense qu'il faut qu'on change ce système parce que ce système, il pèse très lourd sur les actifs et donc il pèse tout simplement sur les salaires des gens. C'est ça qu'il faut avoir aussi à l'esprit.
Monsieur Bonamy.
Écoute, ça va être compliqué de faire mieux que l'excellent exposé de Charles, auquel je souscris totalement.
Merci Jean-Loup.
Ouais, voilà. Et en fait, il n'y a rien à ajouter. Disons que, je vais citer Lacan, le psychanalyste, il donnait une définition du réel, il disait le réel, c'est quand on se cogne, voilà, quand on heurte le mur du réel. Et bien là, nous sommes en train, sur cette question des retraites, qui en fait plombe complètement toute l'économie et toute la société française, de nous prendre le mur du réel en plein visage. Voilà, la décision prise par François Mitterrand de porter l'âge de la retraite de 65 ans, tel que c'était prévu par le programme du CNR, à 60 ans, a été l'une des décisions les plus funestes de l'histoire de France, dont nous payons
on décédait à 73 ans à l'époque aussi, il faut le rappeler. Hein. À l'époque où François Mitterrand prend
ses... On savait que l'espérance de vie allait rapidement progresser.
Du sens de l'histoire.
Et on a créé un effet cliquet où aujourd'hui il est très difficile psychologiquement pour les gens de revenir en arrière. Parce qu'il y a plein de gens qui ont 61 ans et qui ont vu des gens à peine plus âgés qu'eux, leurs amis, leurs grands frères, partir à la retraite à 60 ans et qui se disent bah, « Pourquoi moi, on me ferait aller jusqu'à 65 ?» Voilà. Alors qu'en fait, tous les autres pays européens sont allés beaucoup plus loin sur l'âge de la retraite. Regarde l'âge de la retraite aux Pays-Bas, je crois qu'il est à 67 ans, eh bien l'espérance de vie des Hollandais n'est pas plus basse qu'en France.
Après, tout ça est assez confus parce que finalement, quand on regarde factuellement les chiffres, déjà, les Français partent en moyenne à 63 ans, donc au-delà des 62 ans légales. Puisque ce qui compte, c'est d'avoir ta retraite à taux plein. C'est d'avoir ta retraite à taux plein, parce que partir à la retraite à 60 ans avec un salaire de misère, après, il faut pouvoir vivre avec. Alors, c'est vrai que si t'as un patrimoine immobilier, c'est possible. Et tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Donc déjà, c'est 63 ans. Dans les faits, c'est 63 ans. Donc là, on est en train de se battre, quand j'entends François Hollande, 63 ans, mais c'est déjà 63 ans. Donc c'est très hypocrite, et les Français participent aussi un peu à cette hypocrisie. Quand ils descendent dans la rue pour dire non, 60 ans, 62 ans, alors qu'eux-mêmes, de toute manière, ils savent qu'ils partiront à 63 ans pour avoir une retraite.
Je vais faire hurler mes collègues, mais voilà, quand tu es professeur dans un établissement qui n'est pas spécialement difficile, je ne vois pas ce qui t'empêche pour le bien commun de continuer, par exemple, jusqu'à 68, ou même, comme le disait Charles, jusqu'à 70 ans. Mais mettons jusqu'à 68, par exemple, je ne vois pas ce qu'il y a de sidérant à ces situations. Avant, quand le système a été conçu, les gens faisaient beaucoup plus d'enfants. Bon, ils commençaient à travailler beaucoup plus tôt, avec des études moins longues. T'as plein de gens qui commençaient à travailler comme apprentis, à être payés à l'âge de 13 ans. Bon, ma grand-mère, elle a commencé à travailler à l'usine à l'âge de 11 ans. Bon. Et les gens partaient à la retraite plus tard. Aujourd'hui, on fait moins d'enfants, on commence à travailler plus tard, on part en retraite plus tôt. Le nombre...
On commence trop tard à travailler aussi, ça, voilà. C'est un autre problème.
Bien sûr. Et donc...
On commence trop tard à cotiser.
On commence en fait. Trop tard à travailler et à cotiser, et en même temps, on part plus tôt à la retraite.
Tu commences à travailler à quel âge? À 22 ans, regarde.
L'âge moyen...
T'as ton bac à 18 ans, tu travailles... Moi, tu continues les études jusqu'à 21, 22. Bon, à part avocat et médecin, mais...
Mais c'est pas vrai. Maintenant, c'est 27 ans. Alors qu'en Allemagne, c'est 24 ans. En
France, c'est une spécificité française de démarrer très tard. Le système ne peut pas tenir sous telle contrainte.
Fabrice qui veut en parler avec nous, il est en Charente, il est chef de cuisine, il est à Angoulême. Bonjour Fabrice. Bienvenue Fabrice.
Ravi de vous avoir depuis le temps que j'essaie de vous entendre.
Ah, alors Fabrice, est-ce que vous pensez qu'on peut travailler, on doit travailler 3 ou 4 ans de plus?
Ah oui, parfaitement. Et moi je suis entièrement d'accord. Vous savez, j'ai commencé à l'âge de 15 ans. J'ai 54 ans à l'heure actuelle. J'ai toujours travaillé. Le chômage, je ne connais pas. Et pour mes enfants, j'ai changé de travail à droite, à gauche, etc. pour être avec eux, mais j'ai toujours travaillé. Et je leur ai toujours inculqué ce que mes grands-parents m'ont dit. Dans la vie, mon fils, t'as rien sans rien. Donc, et là, à l'heure actuelle, on se bat tous, mais individuellement. C'est-à-dire que chacun pense à sa petite personne et ne pense pas, en fin de compte, à la génération suivante. Donc, au bout d'un moment, c'est comme là, on arrive, ça clash. On ne peut plus avancer. Donc, au bout d'un moment, il faut arrêter de penser à soi, son petit confort personnel. Peut-être penser un peu à notre génération. Moi, j'ai 5 enfants.
Alors ça, le problème, c'est que parce que là, c'est bien ce que vous dites. Vous avez 5 enfants, parce que les mêmes qui défendent ce système ne font pas d'enfants. Alors quand on leur explique que le principe de notre système de retraite, ce sont les actifs qui financent les inactifs. Si on fait plus d'enfants, il y aura plus d'actifs. Et là, ah oui, c'est vrai. Donc en fait, effectivement, moi je trouve que on pointe du doigt Clément Beaune et autres. Mais moi, je trouve qu'il faut pointer un peu du doigt parfois les contradictions des Français sur leurs exigences. On peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre.
Bon,
on peut pas
partir
à 60 ans, pas faire d'enfants,
avoir une bonne retraite
et avoir une bonne retraite,
bien sûr.
Et se dire que tout ça va continuer. Bah non, ça peut pas continuer.
C'est pour ça que je vous dis que moi ça me dérange pas d'aller jusqu'à 65 ans. J'ai 54 ans, moi, de faire 10 ans, 11 ans de plus, ça me dérange pas. J'aime mon métier, j'aime ce que je fais, etc.
Mais physiquement, vous y arrivez en tant que chef de cuisine?
Sans problème. Ouais. Je peux vous garantir que je n'ai jamais pris de drogue non plus dans mon métier.
Et vous faites combien d'heures par jour, Fabrice?
Je fais 12-14 heures par jour.
Ouais,
c'est le métier qui veut ça. Mais c'est comme ça, c'est tout. Sinon, j'aurais changé. Donc j'ai changé un peu, je suis passé un peu à d'autres métiers, etc. J'ai essayé différents métiers pour être avec mes enfants, mais je suis toujours revenu à la cuisine parce que j'adore mon métier. Voilà, c'est un métier de dingue, mais j'adore ça.
Et est-ce que vous avez fait une petite simulation pour savoir combien vous percevriez si vous partiez à la retraite maintenant? Vous savez, on peut faire aussi maintenant avec...
j'ai reçu, effectivement, mais j'ai légèrement lu et je l'ai laissé tomber parce que moi, dans mon optique, pour l'instant, la retraite, ça ne m'intéresse pas. J'ai même pas cette optique-là. J'ai envie de travailler pour moi, déjà, mais aussi je pense aussi à mes enfants. Et puis, moi, si je travaille, automatiquement, un salaire, 10 salaires, je dépense, et c'est plus vicieux. Et voilà, mais il faut arrêter de penser qu'à soi. Moi, je pense que tout le monde doit travailler et dire, écoutez, selon en plus les métiers, effectivement, j'ai un métier qui est dur, il y a des métiers qui sont plus durs que moi. Il faut aussi voir la retraite en fonction des difficultés de chacun. Et excusez-moi, mais des personnes qui travaillent dans des bureaux, qui ont des activités beaucoup moins physiques, etc., et peuvent aller jusqu'à 65 ans. Moi, regardez, vu moi comment je suis, j'ai envie d'aller jusqu'à 65
Alors,
ans.
J'ai des collègues
qui ont fait cuisiner, etc., quand ils sont à la retraite, ils viennent faire des extras. Parce qu'ils veulent encore bosser, mais on leur interdit de bosser.
Après, il y a la responsabilité des employeurs, comme on le rappelait aussi, qui préfèrent se séparer de gens quand ils arrivent à 55 ans parce que ça coûte trop cher.
Contrairement à d'autres pays ou en Allemagne ou au Japon,
le taux des seniors est plus important.
Bien sûr, parce qu'il y a un problème culturel aussi du côté des employeurs.
Fabrice, on a Didier qui veut intervenir. Il est du côté de l'Orne. Il est responsable pièce détachée auto. Bonjour. Bonjour, Didier. Est-ce qu'il faut travailler 3 ou 4 ans de plus? Fabrice dit aucun problème, il faut y aller au contraire. Qu'est-ce que vous en dites, vous, Didier?
Je dirais que c'est un discours, en toute franchise, c'est un discours quand j'avais à peu près l'âge de vos intervenants.
Parce que il est gentil, Didier.
On est toujours prêt à faire plus. Et quand on arrive à être concerné, comme moi, je pars à la retraite à la fin de l'année, croyez-moi bien qu'avec 43 ans de cotisation avec mon boulot, je suis bien content de la prendre, ma retraite.
Et vous avez quel âge, Didier, sans discrétion?
J'aurai 61 ans et...
Parce que vous êtes fatigué là aujourd'hui, c'est ça, Didier?
Vous avez commencé tôt alors pour avoir déjà 43 ans de cotisation?
Ah oui, il a commencé à 15 ans.
Depuis l'école, j'avais tout juste 18 ans. Et depuis 18 ans, je travaille.
Oui, mais je pense qu'il faut distinguer les carrières longues du reste. Ce qui compte, effectivement, c'est les années de cotisation, d'ailleurs. Vous les avez, vos 43 ans, donc il n'y a pas de souci.
Je pense qu'il faut mettre, un taux de cotisation pour tout le monde pareil. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un régime. On fait 42, 43 ans de cotisation pour tout le monde pareil. Dès qu'on a les cotisations, si on le veut, on peut prendre sa retraite.
Oui. Mais là, à condition que le système soit équilibré.
Il y a des anomalies dans le système. Regardez, moi, je suis en retraite à la fin de l'année. Bon, je voulais me mettre en auto-entrepreneur pour faire des emplacements dans différents sites de mon métier pour faire un complément de retraite. Je préférerais parce que je perds quand même 300.
Ça veut dire que vous pouvez continuer à travailler alors?
Non, il peut pas.
On va l'en empêcher.
Physiquement, c'est-à-dire vous.
À partir du 1er janvier, je n'ai plus le droit de travailler parce que ce que je vais gagner va être déduit de ma pension.
Ouais. Non, mais ça veut dire que physiquement, vous êtes encore capable de travailler.
Temporairement, faire des remplacements de temps en temps.
À mi-temps.
Vous êtes tout dans l'orne, cher Didier.
À Alençon, monsieur.
Oui, je connais bien.
Didier, lui, ce qu'il voudrait, c'est un nombre d'années de cotisation qui soit le même pour tout le monde.
Moi, je
propose Attal.
J'entends tout à fait le discours de notre auditeur, qui est très compréhensible, d'autant plus que vous avez commencé à travailler tôt. Donc, je comprends très bien. Mais la question qu'on peut se poser, c'est OK, mais comment on paye? Parce que si vous vivez, mettons, jusqu'à 92 ans, 93, ce que je vous souhaite, ce que j'espère, c'est-à-dire que là, dans une France qui fait quand même nettement moins d'enfants, on va devoir payer pendant 32 ans, votre retraite. Alors, je suis tout à fait d'accord, c'est scandaleux, c'est vraiment un dysfonctionnement ubuesque de la bureaucratie française qui vous empêche de vous mettre en auto-entrepreneur pour pouvoir cumuler. Ça, c'est vraiment délirant. Donc, je suis contre ce genre de dysfonctionnement, bien sûr. Donc, c'est vraiment délirant. Mais même comme ça, comment est-ce qu'on fait dans une France qui fait moins d'enfants si tout le monde part au bout de 43 ans pour payer des retraites, et des retraites qui vont peut-être durer 30 ans?
Merci Didier d'avoir été avec nous dans les GG. Faut-il travailler 3 ou 4 ans de plus? Qu'est-ce que vous en dites? D'accord ou pas? On va voir.
Les gens vont être contre. Voilà.
Non à
63,1%.
J'avais une remarque. J'adore nos auditeurs. Quand on dit faut baisser les impôts et tout, ils votent oui, faut baisser les impôts.
Mais bravo, 37%.
Est-ce qu'il faut libéraliser la France? Oui, il faut libéraliser. Est-ce qu'il faut partir en retraite et plus tard être travailler plus? Ah non, c'est complètement incohérent. C'est l'incohérence française dans toute sa splendeur. Bravo Olivier.
Dans un instant avec les GG, avec les grandes gueules, l'enseignante qui a été menacée de décapitation, avec l'homme qui a été interpellé tout de suite, il a reconnu les faits, jugé en comparution immédiate et 6 mois ferme. Ça s'est fait immédiatement. La justice qui répond enfin présent, mais ça reste un métier à risque que d'être prof aujourd'hui. 32-16 pour en discuter avec les grandes gueules.
RMC. Alain Marchal, Olivier Truchot. Les grandes gueules.
Sandrine Pégan et Charles Consigny, deux avocats et un professeur de philosophie, un normalien, c'est Jean-Loup Bonamy. Voilà le trio de GG qui est avec nous, sans oublier tout à l'heure à 11h, Moïse Mitterrand qui sera assis à la table des grandes gueules, le petit-neveu de l'ancien président de la République, qui est chef d'entreprise, qui est un libéral assumé. À côté, Charles, c'est un gauchiste. Il vient État partout, justice nulle part. Il viendra présenter cet essai où il fait part de ses convictions de dégraisser au maximum la présence de l'État partout dans le pays. Moïse Mitterrand, tout à l'heure, à 11h. L'enseignante qui avait été menacée de décapitation, on va en discuter maintenant, on va regarder ce qui s'est passé en Haute-Garonne et surtout la fermeté et la rapidité et la fermeté de la justice.
C'est rare.
On se sent en insécurité. Je voudrais pas que mes filles soient témoins de quoi que ce soit. Ah, c'est pas des choses auxquelles je veux qu'elles soient confrontées.
Nous, on est déjà rassurés de voir qu'il y a la police de proximité qui est présente sur place. On est quand même assez catastrophés par cette histoire parce que ça nous fait penser à l'affaire Paty.
J'ai entendu parler de décapitation. Ça me rappelle Samuel Paty. Ça me rappelle ce qu'on a pu vivre il y a quelques années à Toulouse, les attentats. Je m'attendais pas à ça. Je suis un enfant de village et jamais j'aurais cru que ce genre de choses possible au Foga. Petite commune, pour moi, c'est inconcevable.
Voilà, petite commune en Haute-Garonne. Nous sommes au Foga avec les menaces d'un père contre une enseignante.
Oui, ça s'est passé 3 jours seulement après la rentrée scolaire. Ce père de 3 enfants, qui a 47 ans, a été convoqué par la direction de l'établissement. Le motif, son fils, 9 ans, avait reçu une punition de la part d'une autre institutrice de l'école. Emporté par la colère lors de cet entretien, l'homme a à ce moment-là menacé de couper la tête de l'institutrice. Alors on apprend d'ailleurs que ce n'est pas l'institutrice qui a puni son fils, mais celle qui a réprimandé son fils en lui demandant d'arrêter de jouer au caïd. Donc c'est une personne qu'il ne connaissait pas. Donc il a menacé de lui couper la tête. Très vite, il a été interpellé. Et hier après-midi, au tribunal correctionnel de Toulouse, l'homme a été condamné à 6 mois de prison ferme avec mandat de dépôt. Et ça change tout. C'est-à-dire qu'il a été écroué directement à la sortie de l'audience. Il a passé sa première nuit en prison. Donc, on a envie de dire, cette fois-ci, la justice n'a pas eu la main qui tremble. En revanche, une qui tremble, c'est l'institutrice en question, qui visiblement est assez traumatisée par cette affaire. Alors, elle est protégée. Mais elle se pose la question, est-ce qu'elle a vraiment envie de revenir enseigner dans cet établissement? Ça se passe dans une petite commune située au sud de Toulouse.
Déjà, la rapidité de la justice, Sandrine.
Non, moi déjà, je vais reprendre juste une expression que tu viens de dire, Olivier, la main qui tremble. Tu sais, moi, le plus choquant là-dedans, je trouve que c'est la main, justement, du procureur de la République. Le procureur de la République est là pour protéger la société. Mmh. C'est lui qui aurait dû, dans ses réquisitions, prévoir, en tout cas demander au tribunal qu'il y ait justement un mandat de dépôt et qu'il y ait de l'emprisonnement ferme. Le procureur, il a requis quoi? Il a requis un 6 mois avec un placement sous surveillance électronique. Alors que le procureur est là pour, et je le répète, en train de protéger la société, et il a fallu que ce soit la justice, donc le magistrat du siège...
Ça, c'est rare.
Ben oui, c'est assez rare.
Parce qu'en général, le réquisitoire est plus sévère.
C'est-à-dire qu'il n'y a même pas un mandat de dépôt qui est sollicité, qui est requis, que du coup, il est décerné par le magistrat. Donc déjà, ça va en calmer plus d'un en disant que la justice est laxiste. Finalement, on voit bien que non. Mais moi, c'est ça qui m'a choqué. Au-delà des faits, bien évidemment, de la menace de décapitation.
Oui, parce que c'est le résultat final.
Bien sûr, mais je veux dire, mine de rien, t'as le procureur, c'est un peu comme dans l'affaire Bruel. T'as un procureur qui est là et qui essaie normalement de montrer qu'il a une position ferme. Dans l'affaire Bruel, il avait quand même visé l'article 137-4 du Code de procédure pénale, ce qui veut dire qu'en fait, il va au-delà de la position du juge d'instruction et il demande à ce qu'il y ait un JLD. Le JLD, finalement, après, le place au contrôle judiciaire. Et puis, derrière, il ne fait pas appel. Ben là, c'est la même chose. On a un procureur qui, finalement, a peut-être eu la main qui a tremblé. Et moi, c'est ça qui me choque.
Charles ?
Non, je suis... effectivement, moi, je salue la décision de justice qui envoie immédiatement ce monsieur en prison. Je pense que c'est effectivement un changement de paradigme, et je suis d'accord avec ce qu'a dit Sandrine sur ce qu'on peut regretter dans les réquisitions, pour une fois, et ce sont des avocats, oui, plutôt de la défense qui le disent.
Mais tu vois, on a l'honnêteté intellectuelle de le dire.
Il y a un moment où, effectivement, quand vous menacez un prof de décapitation, c'est juste inadmissible. J'aurais bien aimé en savoir un peu plus sur le profil de ce monsieur. J'apprends dans le Figaro, on n'a que son prénom, Abdelkader.
Il avait été condamné pour différents délits routiers, apparemment.
Et vol aussi.
Il habite dans la région de Toulouse. Alors, j'aimerais bien avoir plus d'infos. Toulouse est un énorme foyer d'islamisme radical et de terrorisme.
Il y a eu l'affaire Mera.
Plein d'autres affaires.
L'émir Blanc.
Et plein d'autres. Il est frère Klein, etc. Et plein d'autres affaires qui ne sont pas médiatisées.
Il y a un riverain qui fait référence à ça. En disant, à Toulouse, on a connu...
Donc, j'aurais bien aimé avoir un peu plus d'infos là-dessus, parce que la décapitation, c'est quand même pas les paysans normands qui, en général, menacent leur prochain de décapitation. Il y a peut-être un petit problème d'islam radical là-dedans, qui fait jour dans ce type de conflit entre parents d'élèves et professeurs. Et donc, je pense qu'il faut aussi agir là-dessus, mais... Cette décision de justice est remarquable et j'imagine que les quelques mois que ce monsieur va passer en prison vont peut-être le faire un peu réfléchir pour la suite.
Arnaud qui est au Mans, là, qui nous appelle au 32-16, chef d'entreprise. Bonjour Arnaud.
Bonjour.
Quand vous nous avez entendu dire « voilà, justice est allée vite et sévère », vous n'êtes pas tout à fait du même avis, Arnaud.
Ben, je suis pas du tout de cet avis-là, et je suis d'autant plus sidéré d'entendre Sandrine qui dit que le procureur n'avait même pas requis de prison ferme et que c'est le tribunal qui est le juge.
Qui est allé au-delà des réquisitions.
Qui est allé au-delà des réquisitions, ce qui est très rare.
Non. Ce n'est pas rare.
Non, c'est pas
allez-y,
très rare,
Arnaud, allez-y.
Et aujourd'hui, moi, ce qui me sidère, c'est que on ne protège pas des enseignants. On ne protège pas des enseignants de ce type d'attitude qui arrive quand même assez régulièrement, j'ai l'impression, au regard de ce qu'on peut entendre dans l'actualité. Et je trouve que ce qui aurait été très fort de la part de la justice, c'est qu'un procureur il fasse une réquisition. Je crois que le mise en cause en courait jusqu'à 5 ans.
Ouais.
Et ben moi, le vrai message qu'aurait... Non, pas forcément la totalité, parce que j'imagine qu'il y a une notion de récidive qui est prise en compte par les par la justice, mais qui prenne au moins la moitié de la peine encourue, mandat de dépôt, et qui fasse réellement ces 2 ans et demi. Ça, ça aurait été un message fort. Et là, on aurait dit au corps professoral, regardez, ça peut arriver, mais on vous protège. Là, le message, quand j'entends qu'on parle de fermeté, non, il n'y a pas de fermeté pour moi. Surtout si le procureur n'a pas requis à la base de la prison ferme.
Tu es d'accord avec ça, Jean-Loup ? Tu es d'accord avec Arnaud ?
Oui, sur le fond, je suis d'accord. Mais encore une... Là, je rejoins également ce qu'a dit Charles. C'est-à-dire que... Bah, formuler les choses avec toute la mesure nécessaire. Mais on peut quand même... Enfin, déjà s'interroger sur le profil familial, parce que là c'est un peu tel père, tel fils. L'enfant n'a pas été puni pour rien. Apparemment, il a un comportement de caïd. Mmh. Et on voit que t'as beaucoup de classes et d'établissements où il suffit d'un ou de 2 élèves pour perturber toute une classe. Mmh. Et que si on arrivait à mettre 1, 2 ou 3 élèves seulement par classe sur le côté, sur la touche, et à les sortir de la classe, bah toute l'ambiance serait changée. Voilà, on voit que c'est qu'il suffit d'une petite minorité très active pour pourrir complètement la vie d'une classe et la vie d'un établissement. Bon, et deuxièmement, c'est en effet le lien avec également une mauvaise maîtrise des flux migratoires et de qui on reçoit en France, puisque là, la menace, elle est d'autant plus terrible qu'elle fait écho, qu'elle fait référence à 2 décapitations réelles. C'est ça qui rend également la menace terrible. C'est qu'il y a eu.
C'est pas l'immigration, c'est l'islamisme.
Alors,
c'est deux choses différentes.
Il y a 2 enseignants qui ont été décapités. Il ne t'aura pas échappé que dans les 2 cas, bien entendu, ce n'est pas tous les Tchétchènes qui vivent en France, c'est seulement certains Tchétchènes, mais que dans les 2 cas, les 2 seuls enseignants qui ont été tués ces dernières années l'ont été par des Tchétchènes, que la Tchétchénie est un endroit qui a connu une guerre liée au djihadisme.
Je comprends bien, mais je veux dire, tous les islamistes ne venaient pas de l'étranger. Certains islamistes en France étaient nés sur le sol français.
On est d'accord, Mohamed Merah, tu l'as dit toi-même, il a été sous l'influence d'un prédicateur, l'émir blanc, qui était syrien. Si on ne laissait pas rentrer des militants islamistes syriens bien connus sur notre territoire, ils auraient peut-être pas des disciples. Et pareil, si on n'avait pas laissé rentrer ces 2 familles tchétchènes là, encore une fois, je le dis, c'est certains tchétchènes, c'est pas tous les tchétchènes, et si on n'avait pas laissé rentrer certains tchétchènes, notamment un qui avait été au début débouté du droit d'asile et qu'il a quand même finalement obtenu, bah peut-être que les choses iraient mieux dans l'éducation nationale.
Proposition complémentaire quand même, j'espère qu'on va scolariser les enfants de ce monsieur ailleurs.
Alors c'est prévu maintenant par la loi.
Ça y est, ils sont partis.
Mais les syndicats sont contre parce qu'il y a une nouvelle loi qui finalement oblige que l'enfant le met ailleurs. Alors des syndicats sont contre en disant pourquoi on punit l'enfant de l'agissement de son père.
Faut pas charrier, t'imagines le prof.
On a Vincent qui veut réagir dans le Pas-de-Calais. Bonjour Vincent.
Bonjour à tous, vous allez bien ?
Oui, ça va Vincent. Et qu'est-ce que vous en dites ? Vous voyez, Arnaud dit on aurait dû être beaucoup plus sévère. Vincent.
Je vais vous dire, moi je suis totalement d'accord avec l'intervenant précédent, je suis même d'accord avec Jean-Loup Bonamy, en fin de compte, il aurait dû prendre le max, juste pour faire un exemple, parce que c'est plus possible. Vous savez, quand on entend, métier de prof, ça va, ils ont un bon salaire, ils ont la sécurité de l'emploi, ils ont les vacances.
Ils n'ont pas un bon salaire.
On entend beaucoup de certaines personnes disant que le salaire est...
Ils ont des vacances, mais pas un bon salaire.
Voilà, mais moi, ma femme était prof. Elle a arrêté il y a 3-4 ans de ça, elle est en reconversion professionnelle parce qu'elle s'est fait taper dessus par un gamin. Et elle est affinée en dépression.
Et quel âge il avait, le gamin? Vous dites gamin, quel âge avait-il?
C'était CM2, donc 10-11 ans, un truc comme ça, grand max.
Ça promet pour l'avenir.
Ah bon?
Voilà, oui. Ça, alors pour l'histoire, les parents se sont délaissés de ce gamin, qui le gamin était fini en foyer, le problème avec des gros problèmes psychologiques, tout ce qui était corps enseignant a fait ce qu'il fallait pour remonter à l'administration, disant que l'enfant c'était pas sa place à l'école, mais l'administration n'a rien voulu comprendre et ça a fini par un drame avec ma femme. Voilà.
Mince, d'accord. Voilà. Et le gamin, qu'est-ce qu'il est devenu derrière?
Honnêtement, je vous dis, on s'en est même pas préoccupé, ouais. Parce que moi, ma femme, après, est tombée en dépression. De ce qu'on a compris, l'enfant a été diagnostiqué, schizophrène. Mais après, on n'en sait pas plus.
D'accord.
Après, on n'en sait pas plus.
Et votre épouse va mieux maintenant? Ouais, ça va?
Mon épouse, là, elle est en reconversion professionnelle.
Elle fait quoi?
Elle va mieux maintenant. Bibliothécaire.
D'accord.
Et vous n'avez pas voulu engager de procédure judiciaire contre?
Non. Non, honnêtement, quand ça m'est arrivé, honnêtement, faut comprendre comment ça nous est arrivé. Ma femme est tombée en grosse dépression.
Ouais. Donc, moi, ça s'indemnise.
La première chose que je voulais m'occuper, c'était de ma femme et mes enfants. Et la justice après, c'était voilà.
Mais oui. L'un n'empêche pas l'autre, Vincent. Il faut pas.
Oui, ça, je suis totalement d'accord.
Pas courber les chines. Il faut pas non plus laisser passer, parce que après, on est là aussi pour protéger les autres éventuelles victimes. C'est ça qui est triste, mais.
Après, là, maintenant, ma femme va mieux, puisque maintenant, on commence à lui reparler de devenir professeur. Elle dit plus non, ça peut être envisageable, parce qu'elle n'arrive pas à sa reconversion.
Et vous avez tourné la page.
Il était temps. Il faut combien de drames, en fait.
Donc, il faut envoyer des messages de fermeté, quoi. Voilà, c'est ce que vous nous dites, Vincent.
Oui, mais dès le début, dès les réquisitions du procureur.
Je pense que ça fait consensus dans le pays. Hein.
Ouais. Dans un instant, avec les grandes gueules, Édouard Philippe, s'il est élu, il veut pouvoir... C'est le terme qu'il emploie. Il arrive à l'Élysée, mais il veut un temps de décompression. Édouard Philippe,
qu'il fait de la plongée sous-marine.
Avant de prendre ses fonctions, je vois Charles qui agite la tête comme ça, à dire c'est pas possible. Mais si, peut-être, mais après tout, pourquoi pas,
teasing.
Une fois passé le choc de l'élection, vous prenez du temps, vous laissez retomber la pression, vous réfléchissez. Pourquoi pas? 32-16 pour en discuter avec les grandes gueules, il est 11h20.
RMC. Alain Marchal, Olivier Truchot. Les grandes gueules.
Sandrine Pégan, Charles Consigny et l'ami Jean-Loup Bonamy, c'est le cas de le dire. Voilà nos trois GG. Il est 11h moins le quart. Parlons du temps de décompression d'Édouard Philippe.
Moi, j'adorerais un système dans lequel le président est élu en mai et il prend ses fonctions en septembre. Mmh. Et entre mai et septembre, il a le temps, de se reposer, de décompresser après une élection présidentielle qui est hyper usante, hyper fatigante. Je dis pas qu'il doit prendre 3 mois de vacances, mais franchement, une semaine, ça fait pas de mal. Hein. 2 semaines, ça fait pas de mal avant de repartir. Il aurait le temps de consulter, beaucoup plus lentement, et dans les conditions où on sait que c'est lui qui va devenir les partenaires sociaux, les chefs d'État étrangers, enfin, plein de gens.
Ouais, je les adore en régie.
C'est la méthode Philippe. J'arrive à l'Élysée, de mai à septembre, décompression, consultation, et ensuite, j'y vais à fond. Alors, qu'est-ce que vous en pensez?
On a l'impression qu'on a un candidat qui est fatigué déjà. La campagne a à peine commencé, qu'il se sent épuisé, et il attend avec impatience les prochaines vacances. Alors, c'est vrai qu'on pourrait ironiser sur ce qu'il dit. Alors, après, aux États-Unis, le président américain est élu au mois de novembre, début novembre, et il prend ses fonctions en janvier. Donc, il y a quelques semaines, effectivement, où se met en place la nouvelle administration. Mais pourquoi? Parce qu'aux États-Unis, on change tout. C'est-à-dire que quand un président arrive, on vire tout le monde, on vire tous les chefs d'administration.
Spoil system.
Voilà, c'est ce qu'on appelle spoil system, et on met une nouvelle administration. D'ailleurs, c'est peut-être un modèle qu'on devrait suivre en France. Ça éviterait d'avoir des hauts fonctionnaires qui réchignent à appliquer les nouvelles politiques. Bon, mais là, c'est pas ça. C'est-à-dire qu'il me fait penser à François Hollande. Vous vous souvenez pas de François Hollande qui avait aussi communiqué sur ses premières vacances? Il a dit je prendrai le train. Alors, on se souvient, on en avait parlé. Alors, il avait pris le train, et puis le problème, c'est qu'il y avait des problèmes de sécurité, donc il était rentré en avion. Bon, mais donc on avait vu des photos de lui à la plage avec une chemise, etc., avec sa compagne.
Excuse-moi,
rien n'allait. Et beaucoup disaient, mais enfin, le type, il vient d'être élu pour se mettre au boulot et il commence à prendre des vacances.
Excuse-moi, Olivier San, comme on dirait au Japon. Avec tout le respect que j'ai pour toi, ça ne concerne pas que Monsieur Hollande, puisque son prédécesseur lui-même, Nicolas Sarkozy,
est parti sur le yacht de Bolloré.
Voilà, nous avait expliqué qu'en cas de victoire, comme c'était une charge, il irait se retirer quelques jours pour méditer dans un monastère. C'est ce qu'il avait dit. Oui. Et finalement, le monastère, de manière un peu surprenante, s'est transformé en yacht de milliardaire. Bon, c'était un peu surprenant comme vision de l'abbaye, comme vision de la
chapelle dedans.
Il y a peut-être une chapelle. Ouais.
Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que dit Edouard Philippe ou il est hors sol?
Non, mais ça pourrait prêter sourire si s'il était humoriste déjà, je pense, mais je trouve que c'est totalement lunaire. J'ai un peu l'impression que le Edouard Philippe, c'est la version Wish de Rocky, parce que je sais pas si vous vous souvenez quand même cette campagne qui nous avait fait publier là où il était en train de faire son footing,
il faisait de la boxe,
oui,
pour donc, de vrai, oui, pour
il
de
y
vrai.
Avait un petit sparring partner, donc on se disait ah le mec il est affûté, il est prêt pour l'Elysée, et puis en fait finalement bah là il lui faut des vacances, et puis donc quoi, qu'est-ce qui se passerait alors au bout des 100 jours, il faudrait une petite semaine de récup? Non, je pense que c'est totalement ridicule, et je pense que si déjà là il est fatigué, bon bah qu'il arrête la course.
Charles, en tout cas, est-ce que tu trouves que c'est une bonne proposition ou pas de dire je vais mettre un sas entre l'élection et l'arrivée à l'Élysée?
Moi, je dis aux Français, si je suis élu, je n'aurai pas besoin de vacances.
Ah, très bien.
Hein? Je n'aurai pas besoin de vacances pour supprimer le haut commissariat au plan, pour supprimer le logement de fonction et le chauffeur de la gouverneur de la Banque de France, pour supprimer le Conseil économique, social et environnemental, pour supprimer la moitié des postes de députés, pour supprimer 3 milliards de budget à l'audiovisuel public, pour supprimer le département, pour faire ce travail urgent que les gens attendent. Franchement, j'aurais pas besoin de vacances. Donc, si Edouard Philippe a besoin de vacances pour faire des choses aussi faciles et aussi évidentes et aussi urgentes, effectivement, s'il cale déjà, c'est quand même assez mauvais signe. Je comprends ce qu'il veut dire sur le plan intellectuel, mais moi, j'ai pas d'antipathie pour Edouard Philippe. Mais je constate que il y a un petit refus d'obstacle chez lui qui manifestement est quelque chose d'assez persistant. C'est-à-dire que, sans vouloir faire de la psychologie de comptoir, on sent que il cale devant cette montagne que semble être pour lui la présidence de la République.
Je sais pas si vous vous souvenez de la première interview d'Edouard Philippe en tant que Premier ministre. C'était sur RMC et BFM TV. C'était avec Jean-Jacques Bourdin. C'était juste après l'été. Il avait fait une interview. Donc c'est pareil, un nouveau pouvoir législatif. Il se passait rien l'été. Edouard Philippe, première grosse interview. Elle avait été catastrophique parce qu'il maîtrisait pas bien ses dossiers, etc. Il l'avait reconnu d'ailleurs qu'il avait pas bien préparé cette interview. Il y a effectivement un côté toujours dilettante, j'ai l'impression.
Je suis pas sûr que ce soit un grand bosseur.
Voilà. Alors, est-ce que c'est un peu l'image qu'il renvoie, peut-être à tort. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'on peut pas dire que la situation économique est désastreuse et alarmante. On ne peut pas dire qu'on est au bord d'une crise financière. On peut pas dire que depuis la dissolution, parce que c'est ce qu'il dit, hein, il se passe plus rien parce qu'il y a plus de majorité et donc on perd du temps. On a déjà perdu 2 ans. Là, on va perdre une année électorale. Il va rien se passer jusqu'aux législatives qui auront lieu en juin prochain. Et puis dire, ah, bah, écoutez, moi, je prendrai quand même quelques semaines supplémentaires cet été pour m'y mettre. Enfin, moi, je trouve que, en plus, politiquement, rien ne va. Il peut pas lui-même dénoncer l'urgence d'une situation et prendre son temps.
On a Franck qui veut intervenir, qui est infirmier dans les Alpes-Maritimes. Bonjour, Franck.
Bonjour, les GG. Bonjour, téléspectateurs.
Qu'est-ce que vous en dites, Franck?
Mais moi, je suis d'accord, mais peu importe celui qui sera élu le 2 mai à 20h en 2027, l'investiture, elle aura lieu le 15 mai. Emmanuel Macron est président jusqu'au 15 mai. Donc, entre le 2 mai et le 15 mai, quel que soit le candidat qui va être élu au second tour, il a quand même le droit de se prendre quelques vacances, de souffler un peu.
Mais là, c'est jusqu'en septembre.
Mais c'est la plus haute fonction.
Ah ouais, il vient d'être élu et donc il pense pas à la suite, il va prendre des vacances.
Bah ouais, oui.
Mais il a anticipé puisqu'il a déjà dit que il allait dissoudre l'Assemblée nationale. Mais pour dissoudre, il faudra attendre le 15 mai qu'il soit investi.
Oui, enfin, il peut déjà nommer un nouveau Premier ministre.
Il peut regarder son programme.
Donc moi, je pense que c'est pas peut-être parce que c'est Édouard Philippe, mais si ça avait été Marine Le Pen qui avait dit « bah moi aussi, je veux des vacances » ou M. Mélenchon ou d'autres candidats qui sont sur le départ, est-ce qu'on aurait fait le même débat aujourd'hui, la même polémique?
Évidemment.
Il va être élu le 2 mai, il sera investi que le 15 mai. Et son idée n'est pas idiote de faire un peu comme aux États-Unis, vous l'avez rappelé. Il est élu, mais il prendra il sera investi que 3 mois après, comme aux États-Unis. Moi, perso, ça me choque pas. Il a le temps de consulter, de préparer son gouvernement.
En théorie, on peut penser que tout, normalement, doit être prêt.
évidemment.
C'est-à-dire que si vous arrivez au deuxième tour ou si vous êtes déjà dans la course à la présidentielle, vous avez à peu près une idée de qui sera votre équipe gouvernementale, bien qui sera le secrétaire général de l'Élysée. Enfin, surtout qu'Édouard Philippe, c'est pas comme s'il arrivait ex nihilo. Il a été chef du gouvernement pendant
même s'il veut le faire oublier.
Il sait, il doit savoir à peu près, vous voyez, il doit savoir à peu près où il met les pieds. Tu es d'accord avec ce que dit Franck, de prendre un peu de temps?
Moi, je suis assez d'accord. C'est ce que disait Olivier. Aux États-Unis, en effet, tu as une période de latence de plus de 2 mois. Et d'ailleurs, pendant cette période de latence, le président sortant, qui est toujours en poste pendant les 2 mois, peut encore faire des choses aux États-Unis. Par exemple, en 1992, George Bush, père, est le président sortant, puisque Bill Clinton a été élu en novembre 92, et pourtant, George Bush, qui est le président sortant, alors que Bill Clinton a déjà été élu mais n'est pas encore entré en fonction, George Bush lance l'opération militaire en Somalie. Hein, c'est Restore Hope en Somalie. Donc, il lance cette opération alors qu'il est vraiment sur le départ, qu'il lui reste 3 semaines. Ce que vous voyez dans le film La Chute du Faucon Noir. Donc, vous voyez, le système américain
est très excellent film.
Et le système américain est très particulier. Et pourquoi pas? Mais moi, ce que je relève ici, c'est plutôt que Édouard Philippe, on peut être d'accord avec lui sur le fond, mais c'est à quel point il est un mauvais communicant. Parce que là, c'est vraiment, même si ce n'est pas ce qu'il voulait dire, c'est vraiment mal interprété. Ça prête tout de suite le flanc
en communication,
voilà.
Lui.
D'ailleurs, moi-même, Charles est candidat à la présidence de la République, je voterai pour toi. Moi-même, je suis candidat à être coach en communication d'homme politique. Et Édouard Philippe n'aurait pas commis cette erreur de débutant. Et je me souviens d'une célèbre journaliste française, ancienne présentatrice de journal télévisé, qui a vu défiler de nombreux politiques. Elle disait, mais Édouard Philippe, il y a un problème. Ça ne passe pas avec les gens. Il y a une façon d'être, une sorte d'humour toujours un peu décalé, qui en fait ne passe pas. Et c'est vrai qu'il a un énorme problème.
C'est le Havre.
Qu'il a un énorme problème de communication, de l'humour, du second degré. Oui, oui.
Non, mais attendez, c'est ça le pire. C'est ça le pire.
On peut pas nous vendre cette séquence d'humour.
Que globalement, il y a un ton.
Non, mais surtout
quand Philippe ne passe pas.
Déjà, en plus, matériellement, il va en bénéficier de ces 2 semaines de vacances. Montre plutôt que t'es dans le starting block et t'es au taquet.
Ce n'est pas ce que les Français attendent d'un candidat et a fortiori d'un président. Et donc, il y a un problème de ton avec Édouard Philippe. Et je vais même raconter une autre anecdote. C'est, je me souviens d'un homme politique français avec qui j'ai échangé en privé. Un homme politique de droite dont je ne citerai pas le nom, mais qui a annoncé son ralliement à Édouard Philippe. Et il m'avait dit, il y a quelques années, quand je l'avais vu en privé, il m'avait dit, oh là là, mais Édouard Philippe, dès qu'il va parler, il va s'effondrer. Moi, je le connais. En campagne, ça va jamais aller. Il y a un problème, il manque de charisme, il y a un problème de communication avec Édouard Philippe. Bon, cet homme politique en question a quand même trahi son camp et annoncé son ralliement à Édouard Philippe, mais en tout cas, je ne le dirai pas.
Je ne le dirai pas.
Et Alain Poher, non, mais en tout cas.
Non, parce qu'on la voit sur les images avec Édouard Philippe.
Et en tout cas, il y a un problème. Il a raison sur le fond. Il a raison sur le fond.
Édouard Philippe veut décompresser s'il est élu, boulette ou pas boulette. On va regarder rapidement la consultation, voir ce que vous en pensez.
Et
boulette
voilà.
À 85%.
Et voilà.
Dans un instant, Moïse Mitterrand avec nous. À tout de suite.
RMC, 9h midi. Les Grandes Gueules.